Rencontre avec un élu, une émission présentée par Antoine Armstrong, directeur adjoint de Compublic, agence de communication institutionnelle.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Rencontre avec un élu sur Radio Immo. On invite aujourd'hui M. Guy Benaroche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône, secrétaire du Sénat, vice-président de la Commission des lois, vice-président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Alors Monsieur le sénateur, vous avez remis il y a quelques mois un rapport dont le titre est « Engager et réussir la transition environnementale de sa collectivité », un rapport d'information au sujet des élus pour les aider et les accompagner dans le cadre de la transition environnementale de leur collectivité. Vous essayez d'apporter dans ce rapport des solutions pour faire face aux changements qu'ils devront opérer sur leur territoire. Comment est-ce que ce rapport prévoit d'allier les futurs besoins en matière de transition environnementale dans les collectivités avec notamment le développement d'un cadre de vie agréable et sain pour les citoyens ?
Alors, effectivement, on peut même considérer que votre question, c'est la base réelle de tout projet de transformation environnementale et plus largement écologique. En fait, la réalité, c'est qu'on veut permettre aux gens de vivre dans un environnement qui est à la fois plus agréable, plus sain, et qui induit moins, on va dire, de pression et de contraintes sur eux à tout niveau, y compris au niveau de leur santé. Bon. C'est ça, en fait, la raison de la transition écologique, avant tout, malgré tout. C'est la vie des gens localement. Alors, comment on arrive à concilier la transition, les étapes, la façon de mettre en œuvre la transition environnementale ou la transition écologique d'une commune avec cette volonté de cadre plus sain pour les habitants? Une des remarques essentielles, c'est que les projets qui réussissent émanent toujours et impliquent toujours les citoyens. C'est-à-dire qu'en fait, qui est le meilleur décideur pour savoir quel est l'environnement qu'il souhaite dans une petite commune comme la mienne de 6000 habitants, comme dans une très petite commune ou même dans une grande métropole comme Marseille, c'est malgré tout les gens qui y habitent. Et que donc la particularité, je puis dire, qui paraît d'une logique implacable, mais qui n'est pas toujours mise en œuvre, c'est de commencer par bâtir un projet à partir des gens qui habitent dans une collectivité, à partir des citoyens, de faire en sorte qu'ils puissent être impliqués ensuite dans la façon dont ça va évoluer et que le projet, le récit de ce qui va changer et de la future cité dans laquelle ils vont vivre soit accaparé par chacun des gens qui vont y vivre.
L'idée, c'est vraiment de s'inspirer des besoins du territoire, voir où est-ce que les gens veulent aller, comment ils veulent vivre le lendemain et comment est-ce qu'on, eu égard à ces enjeux-là, on s'adapte et on donne les moyens aux élus de pouvoir mettre en place une politique adaptée. Alors, il y a eu plusieurs recommandations qui ont été évoquées dans votre rapport, on va en reparler, mais quelles avancées espérez-vous pour améliorer la capacité des élus à mieux gérer l'adaptation de leur territoire et notamment sur le sujet du patrimoine bâti ?
Alors, déjà, juste une petite remarque. Bien sûr, il faut que ça se fasse de la façon, le processus soit celui que je vous ai décrit, mais à partir d'un diagnostic réel de la situation où chaque commune, où chaque collectivité se trouve. C'est-à-dire que le fait d'avoir des outils de connaissance de la réalité territorialisée pour chacun est d'une importance cruciale.
Et est-ce que c'est le cas du coup déjà ?
Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, on a des éléments qui existent, on sait qu'ils existent dans différents opérateurs de l'État, à des niveaux très locaux, mais par contre, la plupart un maire, quand il veut savoir exactement quelle est la situation de sa ville face à l'aléa climatique, par exemple, dans les 15 prochaines années, il a du mal à avoir l'information très territorialisée concernant sa commune ou son bassin de vie. Il a celle de la région, du département, il a du mal. Donc, pour pouvoir amorcer des projets importants avec les citoyens, il faut bien entendu avoir ce diagnostic territorialisé. Bon. Ensuite, concernant la question que vous me posez sur le bâti, en fait, je dirais que chaque cas est particulier. C'est-à-dire qu'en fait, la possibilité qui doit être offerte partout, et c'est très très différent quand on parle d'une métropole, encore une fois, comme Marseille ou Lyon, ou quand on parle d'une commune où je me suis déplacé, par exemple, qui a 2000 habitants et qui a des problèmes de rénovation ou d'isolation de son bâti actuel, c'est c'est éminemment différent. C'est-à-dire que dans le second cas, le maire, il prend son bâton de pèlerin et il va voir comment il peut arriver pratiquement à avoir la main lui-même par rapport à des propriétaires privés ou par rapport à des espaces ou à des biens publics. Comment il peut avoir la main, lui, pour impliquer, pour induire une vraie politique dans sa commune. Alors, en fait, nous, ce que nous disons, c'est qu'il y en a marre des appels à projets qui nécessitent pour les collectivités, de remplir des dossiers fastidieux, longs et importants, y compris pour la rénovation, pour avoir des subventions, parce qu'en fait, ils ont de moins en moins de budget
propre. C'est sur la méthodologie, en fait.
Sur la méthodologie, il est important aujourd'hui que ça passe par des contractualisations à la demande des communes et pas aujourd'hui par cette usine à projet qui, en plus, crée un déséquilibre total entre des communes qui ont la capacité à avoir de l'ingénierie et des communes propres et des communes qui ne l'ont pas. Alors, c'est un autre problème encore qui est mis en avant dans le rapport, cette ingénierie à développer, y compris dans les projets. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on demande. C'est-à-dire, il faut partir du terrain, donc il faut partir de la commune ou de la collectivité, non seulement parce qu'elle va définir les vrais besoins en fonction de ses habitants, comme on l'a dit, mais parce qu'elle va avoir aussi, elle doit avoir la capacité à pouvoir agir sur chaque parcelle de son territoire pour pouvoir amorcer et réaliser cette transition, y compris dans le bâti.
Et vous parliez de diagnostic territorialisé, l'idée d'utiliser des outils qui peuvent être mis à disposition. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement, la stratégie patrimoniale de chaque collectivité est bien maîtrisée. Chaque élu sait exactement où est-ce qu'il en est de la connaissance de son territoire et de ses bâtiments, justement pour pouvoir engager cette transition et les travaux qui sont nécessaires.
Je ne suis pas certain aujourd'hui, sincèrement. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Autant il me semble qu'un élu d'une petite commune a la capacité, par son travail personnel, pas par des outils qui lui seraient amenés. Enfin, il existe quelques outils qui peuvent lui être fournis, mais par sa connaissance aussi personnelle, à aller et à appréhender suffisamment bien la situation patrimoniale dans sa commune, autant ça me paraît très compliqué aujourd'hui. Ne serait-ce que quand on parle, alors je ne parle même pas des bâtiments privés, mais quand on parle ne serait-ce que des bâtiments publics, sur des sujets aussi simples que, comme je le disais tout à l'heure, l'isolation thermique ou l'installation de photovoltaïque sur l'ensemble des bâtiments publics, c'est un casse-tête total pour beaucoup d'élus et pour beaucoup de maires. C'est un casse-tête total. Voilà. Alors qu'ils devraient avoir la possibilité d'impulser des politiques et de les mener, je dirais pas parallèlement presque à ce qui existe et ce que lui permet l'État, mais aujourd'hui, il a même des freins, quoi. Donc, il faut commencer par lever les freins qui existent dans la connaissance, effectivement, du patrimoine et ensuite dans son traitement. Et j'ai beaucoup de grandes communes ou de communes, allez, on va dire de moyenne ou de grande importance, où aujourd'hui, je m'aperçois qu'ils n'ont pas les ressources internes en plus, parce qu'ils n'ont pas les formations nécessaires de leur personnel qui ont été menées à terme, et c'est encore une des préconisations. Il faut faire une liste des métiers dont on a besoin dans le futur pour des collectivités pour mener ces transitions. Parce que ce ne sont pas les métiers qui sont ceux que nous connaissions avant dans les services d'une municipalité. Donc ça, c'est important. Ils ne l'ont pas, donc ils font appel à des cabinets extérieurs. J'ai rien contre les cabinets extérieurs. À part que la vocation, c'est de former des gens dans les communes et des fonctionnaires territoriaux qui puissent eux-mêmes, en interne, mener les ingénieries et les études et les capacités d'études pour, par exemple, le patrimoine, mais pour d'autres sujets aussi.
Alors, on a parlé de la connaissance du terrain, de la formation potentielle des élus locaux, c'est une de vos recommandations. Mais finalement, une fois qu'on a ce diagnostic, qu'on sait quelles sont les attentes des habitants du territoire, je me penche un peu plus sur votre rapport et les différentes recommandations que vous avez faites. Si j'ai bien compris, l'idée de ce rapport, c'est vraiment de donner aux collectivités un outil qu'elles vont pouvoir utiliser dans leur territoire. Est-ce que parmi l'ensemble des recommandations que vous soulevez dans votre rapport, il y en a une plus particulièrement que vous auriez envie de mettre en lumière aujourd'hui ou qui vous paraît peut-être la première à mettre en avant quand on veut engager et réussir sa transition environnementale?
Alors, écoutez, c'est compliqué d'en mettre une en avant, mais je m'attacherai en particulier à deux qui sont plutôt du domaine revendicatif, mais qui sont des préconisations qui émanent vraiment d'une énorme majorité d'acteurs locaux, de maires ou d'acteurs importants des exécutifs locaux que nous avons rencontrés. Le premier, c'est cette histoire d'ingénierie de premier conseil. Oui. Vraiment. Le fait d'avoir besoin de cette ingénierie de premier conseil, ce qu'on appelle ingénierie de premier conseil, c'est celle qui remplit des fonctions d'accueil, des fonctions de conseil, des fonctions d'orientation. Et en fait, aujourd'hui, même au niveau de l'État, il n'y a pas de référentiel de guide de l'accompagnement des transitions environnementales à l'attention des services déconcentrés de l'État. C'est-à-dire que même les services déconcentrés de l'État, même le sous-préfet local, en dehors de sa propre volonté ou formation à investiguer ce champ, n'a pas de guide référentiel de l'État qui dise « voilà ce qu'il faut faire, voilà comment nous, premiers interlocuteurs de l'État pour les collectivités, nous pouvons agir avec quel processus, avec quelle méthode ».
Donc il faut un mode d'emploi qui puisse être utilisé par l'ensemble des services.
Nous, on appelle ça un référentiel guide de l'accompagnement. Voilà, on peut l'appeler comme on veut. Je passe sur toutes les autres, mais il y en a une autre qui me paraît effectivement essentielle aussi. C'est celle qui touche au changement des règles budgétaires et comptables des collectivités. Ça nous est apparu essentiel. Aujourd'hui, les règles comptables et budgétaires des collectivités ne permettent pas de prendre en compte, de la façon comptable dont il le faudrait, tous les acquis toutes les charges évitées, tous les coûts évités, toutes les ressources qui peuvent être induites par une transition environnementale, y compris sur le bâti, sur le patrimoine. Ça ne le permet pas parce que elles ont été confectionnées à un moment où en fait il y avait des coûts et puis il y avait des recettes et que à partir de ce moment-là, par exemple, si la politique consiste à faire un investissement et avoir des frais de fonctionnement pour isoler des bâtiments, on ne prend pas en compte dans la définition du projet au niveau comptable et budgétaire les coûts qu'on va éviter lorsque le bâtiment aura été isolé.
Bien sûr.
Et donc une collectivité peut pas arguer de cela au niveau de sa recherche, au niveau de son budget, voilà, très clairement. On représente des budgets et le préfet prend souvent des décisions en fonction des budgets qui sont présentés par les collectivités, y compris pour l'affectation des fonds verts. Voilà. Et donc, on dit là, tant qu'on n'aura pas changé ces règles comptables et financières, et il faut entamer une réflexion et une action assez rapide, au Sénat, on va le faire vraisemblablement aussi avec la commission des finances, pour avancer dans une nouvelle définition de certain nombre de ressources et de charges qui rentrent dans les comptabilités publiques.
Je note les deux sujets que vous évoquez et qui paraissent effectivement importants, cette notion du guide référentiel sur lequel l'ensemble des acteurs locaux pourraient s'appuyer pour engager sur la base d'un mode d'emploi finalement et les aider à transformer et accélérer leur transition environnementale. Et puis cette idée du changement des règles budgétaires et comptables des collectivités. Je note qu'effectivement les économies qui sont réalisées sur les enjeux notamment énergétiques, on ne les compte pas forcément et y a peut-être un sujet à faire. Donc sujet à suivre dans les prochains travaux que vous allez porter au Sénat. Merci, monsieur le sénateur, pour votre présence aujourd'hui, pour nous avoir éclairé sur votre rapport et l'ensemble des recommandations que vous mettez au service des collectivités qui sont à utiliser comme des outils pour ces dernières.
Eh bien, merci à vous et je recommande vraiment à tous ceux qui nous écoutent dans les collectivités d'aller jeter un œil, de cliquer sur une des icônes et de voir à quel point ça peut être très pratique la façon dont a été réalisé ce rapport.
Et de se nourrir pour accélérer la transition Absolument. Environnementale. Merci, monsieur le sénateur.
Merci à vous.
Rencontre avec un élu, une émission proposée par Compublic, agence de communication institutionnelle. À réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria.